sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Promesse du Seigneur, promesse d'une présence qui donne à notre présent une plus grande amplitude, une plus grande intensité. Et précisément, c'est le sens de votre présence ce matin. Mintan et Laurie, qui avaient demandé le baptême pour votre fille, c'est l'occasion de dire, par ce baptême, à quel point elle est appelée à avoir une existence, à quel point elle est appelée non seulement à grandir en stature, mais aussi en sagesse, sans présumer de ce qu'il en est actuellement, et en grâce également. Nous nous réjouissons de ce temps de célébration qui nous réunit autour de cette parole, autour de l'Évangile, qui à la fois nous permet de nous redresser et nous permet d'être en relation les uns avec les autres selon les sentiments fraternels prêchés par le Christ Jésus. Alors je vous invite précisément à vous lever et à chanter au cantique 405 la première strophe. Nous utiliserons ce cantique pour ponctuer les différents temps de la liturgie. Cantique 405, dans le recueil de chants, nous chantons la première strophe.
Thank you.
grâce et recueillons-nous dans la prière. Éternel, un jour, nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père. Mais aimons-nous vraiment de tout notre cœur? Savons-nous dire et montrer que nous sommes des enfants? Force est de constater que bien souvent nous nous écartons de ta parole, de ta bénédiction, voulant marcher seul. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils, mais aimons-nous véritablement notre prochain, non pas simplement celui qui est aimable, mais celui qui vient à nous, sans que nous l'ayons décidé. Force est de constater que bien souvent nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Baptisés, nous l'aurons été au nom de l'Esprit, mais avons-nous porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie? Éternel, nous t'en prions. Accorde-nous ton pardon. Et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 405. 405, deuxième strophe. C'est ainsi qu'il nous donne de marcher ensemble vers la terre promise, vers le royaume, vers ce moment où notre existence sera pleine de sens. Alors levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec la quatrième strophe du cantique 405. l'oblige vitale en demandant le baptême de votre fille. Vous nous permettez, nous, Église du Christ, de répondre précisément à notre vocation. En effet, au moment de quitter ses disciples, le Christ s'adresse à eux en leur disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et cela s'accompagne d'une promesse valable pour chacun d'entre nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La demande de baptême est une manière aussi pour vous de répondre par votre foi à cet appel, et cette foi vous avez souhaité l'exprimer de façon personnelle avec votre sensibilité. Et je vais maintenant vous laisser la parole, je vais vous inviter à venir, et soyez d'ores et déjà entouré par la marraine et par le parrain, et votre déclaration de foi sera notre confession de foi aujourd'hui.
Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme non seulement pour l'amour et dans l'amour, et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit, tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'esprit souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles.
Au moment du baptême, il est bon de se souvenir de cette promesse. L'Éternel nous connaît chacun par notre nom. Alors, Laurie et Nathan, quel est le prénom que vous avez choisi pour votre fille?
Cassandra.
Cassandra, je te baptise au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Cassandra, on peut aussi cette parole et bien. Dieu a tellement aimé le nom qui lui a donné son Fils, afin que tout le monde croit en lui. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place et à vous asseoir si vous le souhaitez. Je vais maintenant donner la parole aux parents, puis aux parrains et à la marraine, de manière à ce qu'ils puissent exprimer tout ce que ce baptême peut recéler de sens et d'espérance pour eux.
Aujourd'hui, nous célébrons le baptême de Cassandra, votre fille. Nous avons choisi de présenter notre enfant à l'église protestante dès son pèlerinage. Par tradition familiale, et parce que nous désirons lui ouvrir la voie d'une vie future à la fois humaine et spirituelle, par le message de l'amour de Jésus-Christ. Cassandra, nous souhaitons que tu grandisses dans l'amour, la confiance et le partage, et nous tâcherons de te transmettre les valeurs qui nous animent. L'honnêteté, la tolérance, le respect d'autrui, l'équité. En te guidant tous les jours sur le chemin de l'amour, nous espérons que tu deviennes une enfant épanouie et que tu puisses plus tard traverser les épreuves de la vie d'adulte avec courage et clairvoyance. Ton parrain et ta marraine nous aideront dans notre rôle de parents en te donnant leur affection, leur soutien, car l'éducation d'un enfant peut être source de grand bonheur comme de difficultés. Ils prennent avec nous l'engagement, notamment de te faire connaître l'histoire de Jésus par l'enseignement du catéchisme.
Cassandra, depuis le jour de ta naissance, tu nous éclaires par ta grâce, ton innocence, et tu nous donnes envie de devenir chaque jour meilleur. Nous te remercions pour ce cadeau. Nous, Chloé et Thomas, sommes fiers d'avoir été choisis pour être ton parrain et ta marraine. Par ce choix, tes parents nous disent qu'ils nous aiment et qu'ils nous font confiance pour les aider à te guider vers ton avenir. Et nous acceptons avec joie de répondre à leurs attentes. Nous nous engageons à tenir ce rôle aussi longtemps qu'il nous sera donné de le faire et selon les valeurs qui sont les nôtres. Le respect de soi-même et d'autrui, le désintéressement, la tolérance, le sens de la famille et du partage.
Nous nous efforcerons d'être auprès de toi dans les moments importants de ta jeune existence. Nous t'encouragerons quand tu feras tes premiers pas ou pour ton premier jour d'école. Il y aura peut-être aussi le passage difficile de l'adolescence où tout à coup on a peur de grandir. Et si plus tard tu nous confies tes chagrins ou tes doutes, nous t'écouterons avec bienveillance, sans te juger, car nous aussi, nous oublions parfois d'être parfaits. Dans la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, les océans et les vallées, pour que tous les êtres y vivent en paix et y trouvent leur nourriture. Nous souhaitons t'ouvrir les yeux sur la beauté et la fragilité de notre planète, pour qu'un jour tu trouves important de préserver le cerisier en fleurs. Nous devenons parler marraine pour la première fois, mais nous ne créons pas notre expérience, car nous apprendrons beaucoup de toi et tu nous donneras confiance en nous. Nous voulons simplement que tu grandisses dans l'harmonie d'une famille unie et que tu te saches aimer pour que tu puisses à ton tour aimer les autres.
Et pour nous unir à la joie de la famille au moment de ce baptême, nous allons nous lever pour chanter le cantique 568, nous chanterons les deux strophes du cantique Seigneur dirige et sanctifie.
Thank you.
Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que les croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parlais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons quelle est notre valeur devant toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi par Jésus-Christ. Nous l'avons entendu dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor qui est placé pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. C'est dans l'Évangile, selon Matthieu, que la famille a trouvé un texte qui faisait sens pour elle. Au chapitre 13, les 9 premiers versets de ce chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus sortit de la maison où il était et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, dans notre recueil de chants au cantique 405, je vous propose de chanter la troisième strophe en restant assis. Cantique 405, troisième strophe.
Manière de dire qu'il s'adresse à tout homme, car
nous avons toutes et tous des oreilles pour entendre. Il y a là l'indication que l'enseignement de Jésus n'est pas réservé à une élite, à un petit groupe, voire à une secte. Il s'adresse à tout homme et à toute femme pour aider chacun à progresser vers une meilleure compréhension de lui-même et de ce que chacun est appelé à vivre tout au long de son existence. Et l'Évangile, selon la sagesse populaire, c'est parfois simple comme l'Évangile. Et tout commence par une phrase d'une simplicité absolument évangélique, « Le semeur sorti pour semer ». C'est presque trop évident. Le semeur sorti pour semer. Vous allez me dire, là on n'apprend pas grand-chose. Eh bien, ce qui à première vue est une évidence est en fait beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Réfléchissons à cela. Agir selon ce que nous sommes. Faire ce qui nous correspond vraiment. Est-ce vraiment ce qui nous arrive quotidiennement? Faire ce qui nous correspond. Passons-nous vraiment nos journées à accomplir ce que nous sommes? Sommes-nous véritablement à l'image du semeur qui sort pour semer? Ne sommes-nous pas de temps en temps, voire très souvent, pris par des impératifs qui nous contraignent à faire bien autre chose que ce que nous sommes appelés à éprouver? Notre quotidien n'est-il pas rempli de tâches auxquelles nous ne voulons pas nous soustraire parce que nous avons le sentiment que si nous ne le faisons pas, non seulement ce ne sera pas fait, mais cela portera préjudice à notre entourage ou à nous-mêmes. Et du coup, nous nous retrouvons à faire bien autre chose que ce que nous savons faire. Et, ce qui est moins satisfaisant, nous nous retrouvons à faire bien autre chose que ce que nous désirons faire. Et pendant ce temps-là, pensons-nous à la grande tâche qui nous incombe? Pensons-nous à la véritable responsabilité à laquelle nous ne devrions jamais nous soustraire? Être nous. Être pleinement nous. Certainement, notre sens de la responsabilité est précieux pour nous sensibiliser à ce qu'il faut faire sans quoi cela ne sera pas fait. Mais selon le mot du rabbi Hillel, qui sera repris plus tard par Henry Thoreau, si je ne suis pas moi, qui le sera? Il nous appartient d'être nous. Il nous appartient d'être celui que nous devenons. Et de ne pas céder sur cela alors qu'il y a tant de situations qui nous brident, qui nous retiennent d'être nous-mêmes, voire qui nous conduisent à tenir un rôle de composition. Voyez-vous, le baptême, tel qu'il est célébré en christianisme, affirme que nous n'avons pas à nous renier, ni à nous sacrifier. Notre identité, exprimée par le nom qui est proclamé lors du baptême, est une identité offerte par Dieu. Nous entendons cela dans le livre du prophète Ésaïe. Dieu nous appelle par notre nom. Cela signifie qu'il est légitime que nous laissions s'exprimer ce que nous sommes profondément. Que nous laissions exprimer nos talents, nos sensibilités, nos passions, selon un esprit de liberté qui, évidemment, respecte aussi la liberté des autres. À l'image du semeur qui sort pour semer, l'être humain est appelé à sortir du lieu où il est peut-être figé, où il est peut-être cantonné, où il est peut-être assigné pour devenir humain.
pour devenir lui-même, pour être profondément lui-même. Que chaque être humain sorte pour humaniser. Que chaque personne sorte pour personnaliser sa vie, parce que personne d'autre ne le fera pour nous. Voici la première promesse du baptême. Cassandra aura le droit d'être elle-même. Elle n'aura pas à tenir un rôle de composition qui serait celui de sa famille, qu'elle soit la famille biologique, qu'elle soit la famille spirituelle, qu'elle soit la communauté nationale. Elle n'aura pas besoin de se conformer à un modèle qui ne lui conviendrait pas. Elle est appelée, au contraire, à faire valoir ses propres talents. Et si elle a besoin de deux téléphones mobiles, d'ores et déjà, eh bien, c'est qu'elle sera particulièrement douée, peut-être, pour les relations. Cette liberté d'être soi s'accompagne d'un autre geste profondément libéral dans ce texte, c'est le deuxième point que j'aimerais aborder. Le semeur sème largement, sans se soucier visiblement de l'endroit où il sème. Nous pourrions dire qu'il sème à tout va. Il sème sans compter. Il sème sans petit calcul. Les grains se répandent sur l'ensemble du sol où il passe. Alors que même le plus mauvais horticulteur sait que mettre des grains, mettre de la semence sur de la pierre, ça ne portera pas beaucoup de fruits. Mais cela ne semble pas préoccuper beaucoup le semeur qui est sorti pour semer. Ce geste large, ce geste assez généreux, ne signifie pas que le semeur serait un être naïf. Bien entendu, tous les grains ne deviendront pas une plante. Il ne s'agit pas d'avoir une vision naïve de la vie. La Bible ne cherche pas à nous faire croire que tout ira bien, qu'il n'y aura jamais de problème. Quoique nous fassions ce qu'il faut, quoique nous agissions au mieux en fonction de nos moyens, ce que nous accomplissons ne portera pas systématiquement du fruit. Néanmoins, il y a dans ce texte une exhortation à ne pas faire les choses à moitié. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce texte. Ne nous focalisons pas sur le fait que ça pourrait ne pas marcher. Ne nous focalisons pas sur le fait que le grain pourrait ne pas pousser, pour de coup ne plus rien faire, ou alors le faire chichement. Il y a un encouragement à ne priver aucune zone de notre vie de ce qui pourrait la rendre féconde, de notre vie ou de la vie de ceux qui nous entourent, de la vie de ceux qui nous sont chers ou de ceux que nous rencontrons en chemin. Car précisément ce qui est intéressant ici, c'est que le semeur ne choisit pas son terrain. Son geste fait preuve d'une grande générosité en semant à tout va parce qu'il offre à ce qu'il rencontre et pas à ce qu'il choisit. Souvent, nous nous disons cela dans l'Église. L'Église est la communauté des gens que nous ne choisissons pas. Et du coup, c'est un bon laboratoire pour apprendre ce qu'est la véritable fraternité. Mais en fait, nous ne choisissons pas non plus nos enfants. De même que nos enfants ne choisissent pas non plus leurs parents ou leurs grands-parents. Et nous pouvons considérer la famille biologique comme un laboratoire également pour apprendre ce qu'est la grâce. Et le baptême est cette seconde promesse qui nous dit qu'il est juste et bon que Cassandra soit là. Elle n'a rien choisi, elle n'a même pas choisi le baptême. Mais cela ne correspond pas à une punition qui lui serait infligée. C'est au contraire une grâce, une promesse qui lui est faite, celle d'une vie qui ne sera pas menée à moitié, d'une vie qui ne sera pas en sous-régime, mais une vie qui sera menée en plein champ. Le semeur sème partout, sans regarder la dépense, sans se retenir. Et Cassandra, j'aimerais te dire à quel point, en choisissant ce texte,
Tes parents prennent finalement l'engagement qu'ils ne seront pas chiches dans l'amour qu'ils te prodigueront. Qu'ils seront au contraire comme le semeur qui sort pour semer, qui sait à tout va, et qui, pour ce qui les concerne, signifie qu'ils t'offriront tout ce qu'ils peuvent t'offrir. L'avantage quand on sème à tout va, c'est que nous sommes sûrs que la bonne terre ne sera pas épargnée. Au moins, le semeur qui sort pour semer avec ce geste si généreux, peut-il avoir l'assurance qu'aucun aspect de l'existence n'aura été privé de ce qui lui permettra d'être fructueux? Comment savoir à l'avance ce qui sera une bonne terre ou un sol pierreux chez nos enfants? Bien malin celui qui pourrait dire ce qui conviendra le mieux à nos enfants. Comment savoir à l'avance les domaines où Cassandra s'épanouira? Quels seront les domaines où elle caillera en permanence? Quels seront les domaines où elle sera incapable de produire quoi que ce soit? Et où elle ne sera pas parfaite. Il y a bien des aspects où ça ne sera pas terrible, terrible. Comment savoir ce qui aidera quelqu'un à se sortir d'une mauvaise passe? Comment savoir à l'avance ce qui permettra à une entreprise, à une société, de retrouver de la croissance si c'est de la croissance dont elle a besoin? Le semeur ne se limite pas à une parcelle ou à une catégorie de sol. Ici, le semeur n'a pas testé l'acidité du sol. Il n'a pas fait une étude de marché. Son geste est large, généreux. Son geste est inspiré par la grâce qu'il donne, sans attendre précisément quoi que ce soit en échange. Le geste du semeur est inspiré par la grâce divine qui offre ce qui est bon, même si cela n'est pas bien accueilli, même si cela n'est pas bien accueilli, même si cela est gâché, même si cela n'est pas mis à profit ou seulement un court laps de temps. Tout à l'heure, la marraine évoquait l'âge de l'adolescence. Oh, comme il sera précieux au moment de son adolescence que vous vous souveniez de ce texte et que vous ne cessiez pas de l'aimer au prétexte qu'elle vous fait la tête, au prétexte qu'elle manifeste ostensiblement qu'elle n'en a rien à faire de ce que vous lui dites. Oh, comme il sera précieux au moment de l'adolescence de se souvenir de ce geste gracieux qui, inlassablement, offre ce qui est bon, même si le sol ne l'accueille pas aussi favorablement que nous pourrions l'espérer. La grâce consiste à offrir ce qui est nécessaire sans se soucier de la rentabilité, sans se soucier de l'usage qui sera fait de ce don. Ainsi, l'amour divin s'exerce-t-il sans limite, sans se restreindre, sans se cantonner. L'amour divin transcende nos catégories, nos délimitations, nos manières de répertorier ce qui fait notre univers. Songeons, dans le monde de l'éducation, à un enseignant. Lorsque l'enseignant est animé de cet amour divin qui transcende les catégories, alors il s'intéresse à chaque élève, même à celui qui n'a pas de bons résultats ou qui manifestement ne s'intéresse pas à sa discipline. Peut-être même pourrions-nous considérer que l'enseignant s'intéresse tout particulièrement à celui-ci. Dans ce texte, nous avons l'impression qu'il y a quand même des catégories de sol et qu'un brin de jugeote suffirait à ne pas gaspiller la semence inutilement. La bonne terre, tout de même, c'est repérable, surtout quand à côté il y a du sol pierreux ou lorsqu'il y a des épineux. Mais sommes-nous bien sûrs de savoir repérer la bonne terre? Déjà, il faudrait qu'il y ait de la bonne terre dans ce test.
Lorsque nous observons scrupuleusement le texte, il n'y a pas de bonne terme au texte. Le texte grec dit ten gen, ten kalen. Kalos, ça veut dire beau. C'est pas bon, c'est beau. La belle terre. D'ailleurs, on ne parle pas non plus du bon berger, mais du beau berger. Les questions de beauté, de grâce. Kalos, vous connaissez en qualifige. La beauté est ici érigée en critère. En critère qui ne correspond pas à nos critères. L'horticulteur ne va pas chercher la belle terre, il va chercher la bonne terre. La beauté est ici érigée en critère. Et si ce critère est assez stupéfiant, c'est parce que précisément, il est question de grâce. C'est la grâce qui est espérée dans la perspective de l'Évangile, et pas autre chose. Et voilà qui pourrait nous inspirer au quotidien. Pensez la beauté du geste. Pensez la beauté de la situation. Pensez la beauté d'une décision. Être inspiré par la grâce plutôt que par autre chose. C'est ce que vous exprimiez au sujet de cette citation de la Genèse. Cette capacité à pouvoir découvrir la beauté de la création. Non pas la bonté au sens moral du terme, ou au sens de l'efficacité, mais la beauté au sens de la grâce. Cassandra n'a rien fait pour mériter le baptême. Comme j'ai l'habitude de le dire, elle n'a toujours pas son brevet de collège, encore moins son baccalauréat, elle n'a pas encore passé son permis de conduire, elle ne paie toujours pas d'impôt. Néanmoins, tout ce que nous souhaitons de mieux est vrai pour elle. La grâce du baptême, c'est que rien ne lui fera défaut, au prétexte qu'elle n'aurait pas encore fait ses preuves. Tout ce qui lui est nécessaire lui est offert d'emblée. C'est cela la grâce. C'est la beauté. Et c'est dans ces conditions que la récolte est surabondante et proprement surnaturelle. N'importe quel agriculteur qui aurait une récolte de 100 pour 1 se dirait là, l'industrie Bayer a fait son œuvre. 100 pour 1, même 60 pour 1, même 30 pour 1, c'est proprement surnaturel. Les taux de rendement naturels sont plutôt de 20 pour 1, voire 25 pour 1. 100 pour 1. Vous imaginez ça? 100% de profit. Eh bien, ces conditions, rappelons-les. C'est que le semeur est libre d'être lui-même et qu'il est inspiré par la grâce divine, par le don sans limite. Si Jésus avait passé son temps à vérifier la rentabilité de ses journées, de ses heures, il est probable qu'il serait passé à côté de sa vocation de Christ. Si une infirmière avait le nez sur sa fiche de poste, sur les protocoles, il est possible qu'elle passerait à côté des meilleurs soins à prodiguer à son patient. Si Jésus s'était limité finalement à ce que le peuple hébreu attendait du Messie, si au lieu d'être inspiré par la grâce, si au lieu de faire valoir ses propres talents, il s'était conformé à l'attente du peuple, il n'aurait pas été disponible aux occasions inattendues qui étaient pourtant à chaque fois le moment opportun pour que le royaume de Dieu surgisse dans un quotidien maussade pour les uns, affreux pour d'autres, insipide pour d'autres encore. Jésus, en ne se conformant pas à l'attente, par exemple, d'un nouveau roi pour Israël, a pu offrir mieux qu'un simple royaume politique. Il a offert le royaume des cieux. Jésus
en refusant de porter son regard uniquement sur les difficultés de sa mission, a pu semer des grains d'évangile qui ont pris racine et ont porté du fruit dans l'abondance, même chez les personnes qui, à première vue, n'étaient pas vraiment très dignes. Songeons simplement aux 12 disciples. Le meilleur des 12 disciples valait moins bien que nous. Le meilleur des 12 disciples, c'est Pierre. Paraît-il. C'est quand même celui qui renie 3 fois Jésus. Judas n'était quand même pas le plus mauvais. C'est quand même un peu fourvoyé dans sa manière de traiter Jésus. Quant aux autres, ils se sont rapidement carabattés quand ils ont vu cet homme humain. Voilà les hommes qui sont pris en exemple. C'est chez eux que l'Évangile a pris racine et a porté du fruit. Et Paul était quand même quelqu'un qu'on aurait pu nous-mêmes lapider. C'est le plus grand des apôtres. Les évangélistes ne passent pas sous silence qu'il y a eu des échecs nombreux et parfois cuisants. Ce qui est entrepris selon l'Esprit de Dieu peut être contrecarré ou ne donner aucun résultat. Il faut en être conscient. Tout ce que nous sèmerons chez nos enfants, chez nos proches, chez ceux que nous croisons furtivement, ne poussera pas forcément. Il n'y a pas lieu pour autant de se décourager. L'important est de ne pas passer à côté d'une belle terre sans lui donner l'occasion de donner le meilleur d'elle-même. Sans lui donner l'occasion de faire valoir ce dont elle est capable. Sans lui donner l'occasion de bénéficier de la grâce. Toujours dans le monde de l'éducation, le pire serait de faire de la rétention d'informations, de garder pour soi ce qui pourrait être si nécessaire pour d'autres. Être soi, vivre selon la dynamique de la grâce, c'est être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est être en mesure de vivre sans se limiter à ce qu'on imagine réalisable, sans se cantonner à ce qu'on estime possible, sans présager de ce que sera l'avenir. Elle est encore capable d'apprendre toutes les langues. Elle peut être aussi bien musicienne que sportive, ingénieure, infirmière, restauratrice, pasteur. Pourquoi la priver de ce qui pourrait lui convenir au mieux, au prétexte que nous saurions à l'avance ce qui sera bon pour elle? Nous ignorons tout à fait ce qui sera bon pour elle. Alors autant ne pas faire les choses à moitié et lui offrir tout ce qui est possible. Vivre selon la dynamique de la grâce, c'est vivre par-delà les calculs. Parce que si nous nous contentons des calculs, les calculs offrant toujours les mêmes résultats, eh bien nous ne changerons rien à notre vie et nous ne risquons pas de l'améliorer. Vivre selon la dynamique de la grâce, c'est vivre par-delà les conformismes, par-delà les habitudes, du coup par-delà notre nature. C'est vivre de manière surnaturelle, du coup, c'est vivre de manière absolue, de manière inconditionnelle. Et c'est ainsi qu'il est possible à chacun d'éprouver ce que signifie la vie en surabondance, ce que nous te souhaitons ardemment à son bras. Amen. Thank you. Chantons maintenant le cantique 403, les trois strophes du cantique 403. Levons-nous pour chanter.
Le repas est préparé, chacun apportera sa contribution financière
Son assiette, ses couverts, son verre, serviette peut-être. Ce sera l'occasion pour nous de dire au revoir notamment à Christine Mitt, puisqu'au 30 juin, elle quittera son poste de jacou pour prendre la responsabilité de l'animation nationale de la jeunesse pour notre Église. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, c'est l'occasion de donner les semences nécessaires pour que cela puisse croître en surabondance. Ne vous contentez pas d'un seul euro, hein. Un geste libéral, généreux.
Thank you.
avec ses disciples, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Prions Dieu. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons du Christ Jésus. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de cette présence vivifiante auprès de nous tous les jours et notamment à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Pour l'heure, puissions-nous, par ton esprit, communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Et avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 581.
Première strophe, première strophe.